Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel, à l'écoute de notre émission. Bonjour Jérusalem. Avec en régie, nous avons aujourd'hui
Émilie
et Elisabeth, bien sûr, à mes côtés.
Bonjour Christine et bonjour Émilie. Alors Christine, voulez-vous faire peut-être un dernier point sur la société juive contemporaine que nous avons attaquée la dernière fois?
Oui, la dernière fois, oui.
On n'en a pas réussi à terminer, c'était
Trop vaste, le sujet. C'était tellement intéressant, hein, vous avez raison Elisabeth, c'était très intéressant. Alors, donc, je vais reprendre où on était arrêté. On parlait justement de la séparation entre la religion et l'État. On se pose la question centrale pour les fameuses relations intercommunautaires, celle du degré d'identité religieuse juive que doit manifester Israël. Alors, si les autorités orthodoxes cherchent à étendre cette législation religieuse au-delà des questions de statut personnel, domaine dans lequel elles disposent d'une juridiction exclusive, les non-observants considèrent ces aspirations comme une coercition religieuse et une atteinte au caractère démocratique de l'État.
Alors là, on parle de la définition juive, c'est ça ?
Du juif, voilà. Mm-hmm. Alors les orthodoxes, bien sûr, s'en tiennent aux critères de la loi juive, selon lequel est juif celui qui est né de mère juive, alors que les laïcs adoptent généralement une définition se fondant sur le critère civil de l'identification personnelle au judaïsme.
D'accord. Alors, y a-t-il un moyen juridique pour définir la frontière entre la religion et l'État ?
Pas vraiment. En tant qu'une solution globale, tant qu'effectivement une solution globale n'aura pas été trouvée, il faudra s'en tenir à l'accord non écrit, bien sûr, conclu à la veille de l'indépendance de 1948, et désigné comme le statu quo stipulant qu'aucun changement fondamental ne serait apporté en matière de religion.
Alors, on ne va pas oublier non plus, Christine, que de nombreuses personnes constituant la population d'Israël ne sont pas forcément juives.
Ah ben non, vous avez raison, puisque bien que définis collectivement comme citoyens arabes d'Israël, ces personnes se répartissent en diverses populations. Alors, pour commencer, il y a les Arabes musulmans, dont la plupart sont sunnites, qui vivent principalement dans des petites villes et dans des villages, principalement dans le nord du pays.
Et il y a des chrétiens aussi, des arabes chrétiens, je
suppose. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on va y revenir. Mais avant, n'oublions pas que les arabes bédouins, également musulmans, qui appartiennent à un groupe arabophone doté de caractéristiques distinctes, sont constitués par une trentaine de tribus qui sont réparties pour la plupart dans le sud du pays.
Alors, c'est un nouveau mode de vie pour ces tribus, je suppose.
Ben oui, puisque...
Ils doivent s'intégrer.
Ils sont obligés de s'intégrer progressivement. Donc, ils font partie de la population main-d'œuvre. Et enfin, les Arabes chrétiens qui vivent surtout dans des villes comme Nazareth, Shfaram et Haïfa, bien qu'il y ait plusieurs confessions qui sont représentées, la majorité d'entre eux sont membres de l'Église grecque catholique, de l'Église grecque orthodoxe et des Églises catholiques romaines.
Alors, existe-t-il d'autres groupes plus ou moins minoritaires ?
Oui, alors là, je vais citer les Druzes, arabophones, qui vivent dans les villages du nord d'Israël et qui constituent une communauté à part entière sur le plan culturel, social et religieux. Finalement, les Circassiens, au nombre d'environ 3000, vivent dans deux villages du nord du pays. Bien que n'ayant pas la même origine arabe et la même culture que la communauté musulmane du pays, il s'agit bien sûr de musulmans sunnites qui maintiennent une identité ethnique distincte.
Alors, participent-ils à la vie sociale d'Israël ?
Pas vraiment, ils ne s'assimilent pas du tout à la société juive et encore moins à la communauté musulmane. Les fameuses migrations arabes ont fluctué en fonction des conditions économiques qui prévalaient dans le pays. C'est vers la fin du XIXe siècle, lorsque l'immigration juive stimula la croissance économique, il y eut bien des Arabes qui furent attirés dans la région par les perspectives d'emploi, des salaires plus élevés et bien sûr de meilleures conditions de vie.
Alors dans quelle partie du territoire trouve-t-on ces populations arabes ?
Alors la majorité de la population arabe d'Israël vit dans des villes et des villages autonomes de la Galilée, notamment à Nazareth qui se situe dans la région centrale entre Hadera et Petah Tikva, dans le Negev et dans des cités où la population est mélangée comme à Jérusalem, Akko, Haïfa, Lod, Ramleh et Yafo. Bien sûr, ce sont des noms de,
oui,
pas, de villes.
Oui, il y en a certains qu'on connaît un petit peu, mais bon, voilà, tant mieux, tous, on en apprend des nouveaux. Voilà. Alors, comment cela se passe-t-il sur un plan politique ?
Eh bien, dans un État fortement centralisé, elle constitue un groupe, hein, c'est une majorité, un groupe périphérique, une minorité arabophone au sein d'une majorité parlant l'hébreu. L'existence d'une communauté séparée, ne s'assimilant pas, est facilitée par l'usage de l'arabe, qui n'est plus depuis peu la deuxième langue officielle en Israël, par un réseau scolaire séparé arabo-druze, par des médias, une littérature et un théâtre arabe, ainsi que par l'existence de tribunaux islamiques, chrétiens et druzes indépendants, compétents en matière de droit privé.
C'est bien compliqué tout ça. Hein.
Ouais.
Alors dans la vie quotidienne, la conception et le mode de vie traditionnel ont dû changer.
Ah, bien sûr, hein, puisque malgré tout, les coutumes du passé subsistent encore dans la vie de tous les jours, comme bien sûr l'affaiblissement progressif de l'autorité tribale et patriarcale, l'influence de l'éducation obligatoire et la participation à la démocratie israélienne. Le secteur arabe prend part régulièrement aux élections nationales et municipales et les citoyens arabes gèrent les questions politiques et administratives de leur propre municipalité.
Et alors, qui est-ce qui représente les intérêts arabes ?
Alors, depuis quelques... Ils sont en fait représentés par des députés élus à la Knesset, hein, tout le monde le connaît,
c'est le Parlement,
qui œuvrent sur la scène politique pour promouvoir le statut des groupes minoritaires. En fait, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les citoyens arabes sont exemptés du service militaire en raison de leurs liens familiaux, religieux et culturels avec le monde arabe, ainsi que par le souci d'éviter des problèmes de double allégeance. Et ça, on pourra le comprendre, hein, bien sûr.
Ben, tout à fait. Ça serait difficile d'être coupé en deux, quand même.
Ouais,
hein.
Alors,
les minorités bénéficient-elles aussi de cette exemption ?
Alors, normalement, il faudrait savoir que le service volontaire est encouragé et il est même obligatoire pour les druzes et les circassiens, sans compter le nombre de bédouins qui s'engagent dans l'armée et cela ne cesse d'augmenter.
C'est très bien, c'est donc leur façon de vouloir s'intégrer dans cette société juive, sans pour autant renier leur passé et leurs origines.
Bien sûr, hein. Et tout en se rattachant par leur culture et leur identité au peuple arabe, ils revendiquent leur appartenance à l'État juif et considèrent leur avenir comme étant lié à celui d'Israël.
Et alors, est-ce qu'ils parlent l'hébreu ?
Oui, mais en tant que seconde langue, vernaculaire. Hein, et s'efforcent également de participer davantage à la vie nationale, de parvenir à une meilleure intégration dans l'économie et d'obtenir d'autres avantages pour leur ville et leur village.
Hein. Alors, on n'oubliera pas cependant qu'il y a d'importants mouvements de contestation. Hein,
malgré,
bien sûr.
Ça n'a pas été toujours rose et ça ne l'est pas encore pour l'instant. Malgré, bien sûr, d'importants clivages sociaux, des disparités économiques et une vie politique souvent agitée, la société multiethnique, pluriculturelle, multireligieuse et multilingue demeure relativement équilibrée et stable. En dépit des troubles sociaux potentiels, le caractère modéré des conflits sociaux entre groupes s'explique par les systèmes politiques et judiciaires du pays qui assurent une égalité juridique et civile absolue. Israël n'est donc pas un creuset, mais plutôt une mosaïque composée de divers groupes de populations coexistant dans le cadre d'un État démocratique.
Voilà, ben ça se comprend quand même, puisqu'ils viennent un peu de partout. Donc c'est normal que ce soit des mosaïques. En tout cas, voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'histoire.
On s'est arrêté à l'histoire
De la société israélienne. Voilà,
mais peut-être qu'un jour, on y reviendra dans une autre...
En tout cas, je pense que c'est assez passionnant.
Je pense qu'il y aura quand même
De merci. On a terminé cette partie-là. On commencera un autre sujet après une petite pause musicale. Voilà, après cette petite pause musicale, nous revoici dans les studios de Radio Grand Ciel avec Christine qui va nous aborder une rubrique différente et puis la société israélienne dont nous venons de vous raconter tous les détails. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez ?
Alors, actuellement, vous savez, Elisabeth, que nous parlons beaucoup de solidarité entre les peuples. Et justement, mon sujet de maintenant, c'est la solidarité entre chrétiens et musulmans. Comment refuser la désensibilisation générale face à une brutale réalité ?
Alors, en quoi consiste cette solidarité ?
Alors, comme chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies célèbre en fin d'année la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.
Je crois qu'il les mérite, hein, cette solidarité, n'est-ce pas ? Que marque donc cette journée ? Revenons-y.
Oui, tout simplement, c'est l'anniversaire du plan de partitionnement de la Palestine pour la Palestine de 1947, connu sous le nom de résolution 181, et plus de 70 ans après, la question de la Palestine, bien sûr, n'est toujours pas résolue.
Je voulais juste dire qu'en 1947, ni Tito, ni le roi des Grecs, donc le père de la reine Sophie d'Espagne, n'ont pas signé ça. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient qu'on va créer une poudrière.
J'ai pas dit tous les pays, j'ai dit...
Je signale juste que tout le monde n'était pas d'accord. En tout cas, Tito n'était pas d'accord.
Vous avez certainement le raison. Voilà. Hein.
Probablement. Enfin, voilà, continuons. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé donc autour de cette journée d'organisation alors ? Comment ça s'est passé ?
Il y a eu beaucoup d'événements. Hein. Il y a eu des réunions, des projections de films, de la publication, des messages, des déclarations de solidarité et enfin d'autres sujets clés qui ont été abordés comme la construction de colonies, le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale, le droit de retour des réfugiés et la détérioration des conditions de vie à Gaza.
Alors, on sait, Christine, qu'Israël ne tient pas compte et le droit international comme les droits de l'homme ne sont pas toujours appliqués.
Rappelez-vous, Elisabeth, que le 19 juillet 2018, le Parlement israélien avait approuvé la loi, la fameuse loi État-nation du peuple juif. On en avait déjà fait une émission, dont l'une des clauses énonce clairement que l'État considère le développement de la colonisation juive comme une valeur nationale et agira pour encourager et promouvoir sa création et sa consolidation. Et la loi fondamentale déclare également que l'État d'Israël est le foyer national du peuple juif dans lequel il remplit son droit naturel, culturel, religieux et historique à l'autodétermination.
Pour un pays laïque comme la France,
c'est fort.
C'est un peu dur d'entendre ça. Alors voilà, elle omet aussi de définir les frontières de ce pays.
Ah ben oui, et c'est pourquoi il y a eu...
Ça peut continuer
on est parti pour pas mal de temps, justement, concernant ces...
On ne parle pas trop de politique, mais c'est
Non, on ne parle pas de politique, mais enfin, je pense que c'est la portée de tout le monde de comprendre. C'est pourquoi il y a eu un appel au gouvernement israélien qui avait été lancé pour abroger cette loi qui soulignait cette loi qui voulait ignorer totalement le fait qu'il existe un autre peuple, les Arabes palestiniens, et qu'elle contrevenait directement à la résolution 181 de l'AG des États-Unis, enfin des Nations Unies, ainsi qu'à la propre déclaration d'indépendance d'Israël.
Bien, alors revenons au combat de la désensibilisation. Je vais y arriver. Désensibilisation face à une brutale réalité.
Ah ben oui, parce qu'il faut rappeler que lors de cette journée internationale de solidarité, la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Madame Espinoza, a exhorté les dirigeants mondiaux, y compris les chefs religieux et autres responsables, de faire du problème palestinien une priorité et de lutter contre la désensibilisation qui se produit lorsque la souffrance et la mort deviennent une réalité quotidienne et que les médias ne les traitent même plus dans les dernières pages.
Alors, on peut considérer cet appel comme une certaine dénonciation.
Ah, tout à fait,
On a attiré l'attention.
Oui, on attire l'attention, mais bon, et surtout à Gaza, hein, cette désensibilisation émotionnelle que la population avait développée face à l'horreur est devenue en quelque sorte une norme. Mm-hmm. Alors que les enfants de Cisjordanie grandissent en pensant, bien sûr, qu'il est normal de passer non seulement des points de contrôle surveillés par des jeunes soldats qui sont armés de fusils.
Mm-hmm. Alors rappelons, Christine, à nos auditeurs que la résolution 181 prévoit la partition de la Palestine mandataire en trois entités, avec la création d'un État juif et d'un État arabe, Jérusalem et sa proche banlieue étant placées sous contrôle international en tant que corpus separatum.
Tout à fait, oui, oui. Voilà, donc ça, nous avons abordé un sujet sur lequel on reviendra certainement un jour ou l'autre.
Effectivement.
Maintenant, Elisabeth, nous allons changer de registre et parler de la faim dans le monde. On dirait que c'est guère mieux. Hein.
Difficile aussi, alors. Donc, que pouvons-nous faire? Mais on peut en parler déjà. Donc,
voilà. Bon, alors, c'est une femme. C'est un sujet bien sûr important, mais c'est une femme, Madame Lahennel, première candidate unique de l'Union européenne au poste de directrice générale de la FAO, qui veut donner une nouvelle impulsion à l'organisation onusienne dédiée à l'alimentation et à l'agriculture.
Alors, ce qui permettra de nourrir les personnes affamées ou victimes de la malnutrition, conformément au programme des Nations Unies pour le développement durable, avec un horizon 2030.
Voilà. Puis après, ce sont toujours des programmes qui sont renouvelés régulièrement. La Semaine Verte, hein, c'est le nom du Salon de l'agriculture qui s'est ouvert au mois de décembre en Allemagne. Depuis 1926, animaux de la ferme, produits du terroir et fleurs s'installent au hall de la Funkturn berlinoise. Et l'année dernière, environ 400 000 personnes ont visité les 115 000 m² d'exposition.
C'est énorme, c'est comme notre salon d'agriculture,
n'est-ce pas ? Pratiquement.
Voilà, c'est un vrai salon, comme celui que nous connaissons en France, bien sûr.
Tout à fait. Et alors, comme chaque année, cette Semaine verte est présidée par le Forum international sur l'agriculture et l'alimentation, le Global Forum for Food and Agriculture, qui rassemble entre 50 et 60 ministres de l'agriculture du monde entier, ainsi que des organisations internationales, des ONG, industrielles et scientifiques.
Alors, cette candidate, Catherine Lahennel, fait partie de la liste des 28 pays.
Oui.
Enfin, 27 bientôt,
oui,
de l'Union européenne.
Pour l'instant, on n'en est pas encore à 27.
Non, pas tout à fait, mais ça a l'air d'y aller.
Oui, en tous les cas, elle a fait connaître sa candidature dès le mois de juillet de 2018 pour enfin mieux se préparer, faire un tour du monde, se présenter auprès des acteurs locaux et se mettre à leur écoute. Le vote est, lui, prévu lors de la 41e Assemblée générale de l'organisation fin juin, un mois avant la fin du mandat du brésilo-italo-américain José Graziano da Silva.
Alors, de quelle façon compte-t-elle procéder à faire progresser l'agriculture ?
Bien, lors de la COP21, Madame Lahennel a pris également part à la création de la plateforme internationale 4 pour 1000. C'était une initiative qui avait été lancée par la France qui consistait à montrer que l'agriculture et en particulier les sols agricoles peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et le changement climatique.
Alors, ce sont effectivement des choix très, très importants pour l'avenir.
Ah ben, je pense, oui, c'est très, très, très important. Hein, et elle rappelle également qu'à la fin de la dernière conférence de l'ONU sur le climat en Pologne, la COP24, la Banque mondiale aurait promis de mobiliser 200 milliards d'euros sur 5 ans, qui pourraient en partie être alloués à la FAO.
C'est ce conditionnel qui est un peu inquiétant, mais espérons que ça va devenir une réalité.
En espérant, parce que si, si elle est élue...
Et donc, si Catherine Lahennel était élue à l'agence onusienne, que fera-t-elle ?
Eh bien, elle espère attirer des investissements publics et ou privés pour consolider les vastes connaissances acquises par la FAO depuis sa création en 1945. C'est énorme, c'est lointain. En 1945, déjà, on parlait de la faim dans le monde. Afin de mieux les valoriser et de passer à l'action sur le terrain.
Avec mon mari, on a vécu dans des pays en voie de développement, justement, dans le cadre des organisations du FAO. Voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est toujours pas...
Mais non, le problème n'est toujours pas résolu. Non, alors que je pense qu'il y a des solutions...
Alors, à l'heure où nous parlons de ce sujet grave, est-ce qu'on peut dire que la faim est en hausse ou est en baisse ?
Non, malheureusement, elle est en hausse. Hein, et touche maintenant 821 millions de personnes et 2 milliards d'individus souffrent d'encore de la malnutrition.
Alors tout cela entraînerait un changement radical.
Mais ce serait bien, oui, parce que si les fonds récoltés pouvaient aider à créer de l'emploi dans le secteur agricole, comme par exemple en Afrique subsaharienne, où la production est de 4 à 6 fois inférieure à ce qu'elle pourrait être.
En tout cas, ce serait très bien si cette femme était élue, parce que je crois que les femmes sont plus pratiques, elles ont plus d'esprit pratique que les hommes, je pense.
Je l'affirme alors.
Donc, et cela permettra aussi aux agriculteurs de sortir de la pauvreté, ne pas abandonner leur territoire, de cultiver leur sol en s'adaptant aux besoins de ces populations.
Moi, je trouve que c'est extrêmement important de permettre aux agriculteurs de sortir enfin de la pauvreté. Et tout en prenant en considération la régénération de la terre ou de l'eau, Catherine Lanel plaide pour des solutions intégrées où un monde en sécurité alimentaire est un monde plus sûr. Et elle se dit confiante dans les solutions adaptées à chacun pour produire plus et mieux, car des solutions existent, bien sûr, pour venir à bout de la faim.
Voilà, je crois. Encore, on vient d'aborder un sujet qui pourrait être plus développé encore.
Et c'est quelque chose à
envisager. Pour en faire encore, voilà, exactement. Et malheureusement, on va y revenir encore.
On y reviendra parce qu'il y a toujours...
Toutes les solutions. Ouais. Nouvelle petite pause musicale et on reprend ensuite pour notre troisième partie de notre émission. Nous revoici avec Christine qui nous entretient de tous les sujets concernant Israël qui sont très intéressants.
Oui, concernant la vie quotidienne.
Bonjour Jérusalem, voilà. C'est bien trouvé.
Elisabeth, je suppose que vous avez entendu parler dans les médias des actes de vandalisme qui sont perpétrés depuis environ 2013.
Et oui, malheureusement, plusieurs de ces actes ont été bien souvent relatés. Et notamment dans les églises ou des cimetières. Alors, sait-on qui sont les vandales ?
Non, bien sûr, on ne sait pas. Et le dernier événement en date a eu lieu le 17 octobre dernier, qui a vu la profanation de 27 croix tombales en béton ou en métal dans le cimetière adjacent au monastère salésien.
Alors, rafraîchissez-nous un peu la mémoire à propos de salésien, puisqu'elle nous sort des mots qu'on ne comprend pas toujours.
Mais qui est pourtant très simple. Hein, vous allez comprendre tout de suite, et puis comme ça, vous le saurez.
Voilà. On est là
alors,
pour
les
apprendre.
Salésiens sont une congrégation cléricale de droit pontifical qui a été fondée en hommage à saint François de Sales.
Mais bien entendu, c'est
oui.
Élémentaire.
Élémentaire, mon cher. Dont il admirait bien sûr la bonté, l'intelligence et le sens de la communication, qui a été fondée donc par saint Jean de Bosco le 18 décembre 1859, qui est constitué de religieux, prêtres et laïcs. Sa mission est de donner une éducation à la jeunesse dans les écoles, les maisons à caractère social, les paroisses et dans les familles,
voilà.
Bien sûr.
Bien, merci, voilà. Christine.
Je vous en prie,
je
Elisabeth.
Me sens plus riche de quelque chose que j'ai appris. Maintenant, revenons au vandalisme, finalement, puisque c'est malheureusement... C'est pas drôle, excusez-nous, on rit, mais bon, parce qu'on passe un moment quand même agréable en découvrant quelque chose, tout en étant triste par certains côtés de notre émission. Donc, ces vandalismes, alors
Alors, ces actes-là, bien sûr, il y en a eu plusieurs. Hein, dont c'est surtout, ces actes ont été perpétrés au cimetière salésien de Beth Gemel. Et malgré les enquêtes qui ont été ouvertes, il s'agit, on n'a trouvé personne. En fait, ces actes consistaient en des vitraux endommagés, des meubles et du bris, surtout d'une statue de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus, d'incendies et d'inscriptions haineuses, antichrétiennes, anti-américaine, anti-juive.
Et que fait l'État alors contre ça?
Alors qu'aucune mesure sécuritaire ou éducative n'a été prise par les autorités de l'État, il semblerait en fait que, d'après l'État, que tout se passe très bien dans ce pays. C'est ce qu'a dit effectivement Benjamin Netanyahou en évoquant le deuxième sommet annuel des médias chrétiens et Jérusalem.
Voilà, alors puisque...
Les chrétiens à Jérusalem,
malheureusement, pardon. On ne peut rien y faire. On passe à un autre sujet, si vous le voulez bien, parce que malheureusement, le temps passe, donc on en a...
Alors, mais pour aller très vite...
le terminer, quand même.
Pour aller très vite, je vais vous parler d'une exposition au musée d'art de Haïfa, laquelle exposition a provoqué la colère de beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens.
Ah, alors c'est une exposition de quel type, finalement?
Eh bien, cette colère, elle est due en fait à la représentation choquante de Jésus-Christ, l'un des grands symboles du christianisme.
Ah ben, mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Sans mettre en cause le respect pour la liberté d'expression, alors que l'exposition vise à critiquer la société de consommation, l'utilisation abusive des plus grands faits de notre religion chrétienne est inacceptable pour les chrétiens et les non-chrétiens.
Oui, absolument. C'est donc la municipalité de Haïfa qui est considérée comme le premier responsable de cette exposition.
Oui, tout à fait, car le contenu de cette exposition comprenait des images insultantes, des figures et des symboles les plus sacrés de la foi chrétienne. En fait, le respect des symboles et des figures religieuses, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, doit quand même être préservé dans tous les cas.
Voilà. Alors, nous arrivons bientôt au mois de février, Christine. Il y a un sujet que vous vouliez évoquer à propos de ce mois.
Oui, on va bientôt manger des crêpes. Chandeleur. Donc, c'est la chandeleur.
Voilà, d'accord. Qu'a-t-elle de si particulier, cette fête?
Alors, cette fête était une ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite fête religieuse chrétienne.
Alors, à quoi correspond-elle?
À la présentation du Christ au Temple et à sa reconnaissance par Siméon comme lumière d'Israël.
Alors, on prépare traditionnellement des crêpes par leur forme ronde et dorée, rappelant le disque solaire, évoquant le retour du printemps après l'hiver sombre.
Ah oui, rappelons qu'à la chandeleur, les Romains fêtaient les Lupercales aux environs du 15 février, inspirés de Lupercale, qui était le dieu de la fécondité et des troupeaux.
Alors pourquoi ces Lupercales étaient liées à la fête de la chandeleur?
Sans doute en raison de la visée purificatrice à laquelle ces fêtes donnaient lieu. En 472, la chandeleur a été associée aux chandelles par le pape Gélas Ier, qui a organisé le premier, bien sûr, des processions au flambeau le 2 février.
Je crois, Christine, on va s'arrêter de parler des crêpes parce que malheureusement, on est obligé de terminer notre émission. Peut-être qu'on reviendra la prochaine fois. On va commencer par les crêpes.
Oui, je pourrais peut-être prendre le dernier paragraphe, mais bon.
Vite, parce que.
On va rappeler que les crêpes, avec leur forme ronde et leur couleur dorée, rappellent le soleil, enfin de retour après une nuit d'hiver, moment de l'année où les jours s'allongent de plus en plus vite. C'est aussi l'époque de l'année où les semailles d'hiver débutent et on faisait des crêpes qui ont un symbole de prospérité pour la prochaine année.
Merci Christine, voilà. Vous êtes une véritable poétesse, c'est ça?
Voilà, j'ai un nouveau titre. Merci Elisabeth, merci à tous nos auditeurs.
Que nous avons abordé.
Et merci à
On a l'eau à la bouche.
À Émilie de nous avoir supporté.
Merci beaucoup, à bientôt.